Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Anne Niva, qui est grand reporter. Elle est avec nous, bien sûr. On est très heureux de vous accueillir parce qu'il y a effectivement les spécialistes de studio, les spécialistes de plateau et puis il y a les autres, ceux qui côtoient le terrain. Anne Niva pouvait-elle être ailleurs qu'en Russie pour cette élection présidentielle ? Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
En direct de Moscou. Tiens, déjà, première question que j'avais envie de vous poser, Anne Niva, est-ce que c'est compliqué d'entrer en Russie pour les journalistes français pour couvrir cette élection ?
Ah, c'est peu de le dire. C'est très compliqué. J'ai jamais vu ça en 30 ans que je demande des visas pour la Russie. De toute façon, même si on reçoit le visa, on l'a reçu que pour 8 jours. Tous les ressortissants, les journalistes des pays dits hostiles, que la Russie considère comme hostiles, c'est-à-dire en gros les pays qui livrent des armes à l'Ukraine. Donc 8 jours, ça veut vraiment dire qu'on veut pas qu'on soit trop longtemps en Russie. Et puis quand on arrive à l'aéroport, même avec le visa, on nous retient pendant 2 heures, 2 heures et demie pour nous poser des questions. Donc, rien n'est simple, mais c'est comme ça.
Voilà, alors élection dont l'issue, Anne Niva, ne fait absolument aucun doute, mais c'est une élection présidentielle en pleine guerre, une élection un mois après la mort de l'opposant numéro 1, Navalny. Vous percevez quelle atmosphère à Moscou aujourd'hui, Anne ?
Alors, écoutez, ça faisait 8 mois que j'étais pas venue à Moscou. L'atmosphère est assez étonnante parce que, en fait, des deux côtés, il y a un durcissement. Je m'explique. Du côté de ceux qui sont, en fait, pro-guerre et du côté de ceux qui sont anti-guerre. Et les élections, c'est le catalyseur, en fait. Tout le monde a une opinion là-dessus. Ceux qui sont pro-guerre vont aller voter, bien sûr. C'est difficile de les rencontrer à Moscou parce qu'il y en a moins qu'ailleurs. On est dans une grande ville, une ville moderne, une ville jeune. Et ceux qui sont anti-guerre, eux, sont complètement indifférents, ne veulent absolument pas aller voter. Et donc, ils font la fête à Moscou. Moscou, vous savez, le samedi soir, le dimanche, les restaurants sont pleins. Il y a vraiment autre chose à penser qu'à la guerre. En tout cas, c'est l'image que donne Moscou aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut sortir de Moscou.
Et les Russes, ils la voient comment, la situation, justement, après 2 ans de conflit ? Alors, pas les moscovites, hein, Niva, on l'a bien compris, mais vous qui sillonnez la Russie depuis plusieurs années, ils vivent comment ces 2 ans-là ?
Il y a une grande lassitude de la part des Russes vis-à-vis de cette guerre. Et là, une fois de plus, même ceux qui sont en faveur de la guerre et donc en faveur de Vladimir Poutine et qui vont voter pour Vladimir Poutine, même ceux-là ont envie que la guerre s'arrête. Mais en fait, ils veulent qu'elle s'arrête avec la victoire de la Russie. Et c'est bien pour cela que Vladimir Poutine compte sur eux, puisqu'il souhaite cette victoire. Mais de l'autre côté, ceux qui sont contre la guerre, également, ils voudraient que la guerre s'arrête, mais ils ont peur, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, des deux côtés, il y a une lassitude. Je la sens beaucoup plus que précédemment aujourd'hui en Russie.
Mais alors justement, Anne Niva, c'est quoi la victoire ? C'est à quel moment pour les Russes ? À quel moment ils considéreront qu'ils auront gagné ? Parce que nous, on parle beaucoup ici depuis la France, notamment de la victoire de l'Ukraine. Ça, on a bien compris le contexte, mais du point de vue des Russes, c'est quoi le succès, la victoire ?
Alors, du point de vue des Russes, la victoire, c'est tout simplement qu'ils cessent d'envoyer des soldats sur le front, des soldats russes, pour que ces soldats russes meurent. Et en fait, ce qu'ils souhaitent, bien sûr, la victoire en Russie, c'est la capitulation de l'Ukraine. C'est le fait que l'Ukraine dirait « on arrête la guerre » et donc le côté russe conserve les territoires qu'il a pris par le combat, c'est-à-dire les 17% de l'Ukraine. Voilà ce qui serait la victoire du côté russe.
Et alors, cette guerre, est-ce qu'elle a fini par renforcer Vladimir Poutine ? Alors, on rappelle évidemment qu'il est au pouvoir depuis de très très longues années. Les Russes continuent de le suivre sur plusieurs générations. Je pense à ceux qui sont nés avec lui, qui sont grands maintenant, qui vont voter eux aussi.
Oui, mais il y a quand même une différence entre ceux qui ont cet âge-là, vous avez raison, ils ont l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir, c'est-à-dire 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ceux-là, ils sont quand même beaucoup plus ouverts sur le monde que ceux qui sont plus âgés. Il y a vraiment cette horizontalité de la société. La société russe est une société moderne, c'est-à-dire que ces jeunes-là, ils ont accès aux médias sociaux. Malgré la censure, ils sont quand même plus proches d'un jeune britannique, d'un jeune français que d'un russe plus âgé qu'eux. Donc ceux-là, ils n'iront pas voter. En majorité, ils n'iront pas voter parce qu'ils considèrent que ça ne sert à rien d'aller voter et ils n'ont pas peur de Vladimir Poutine. Ils attendent tout simplement que Vladimir Poutine cesse d'être au pouvoir. Tandis que ceux qui sont plus âgés, qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien ceux-là, ils, pour différentes raisons, notamment ceux qui travaillent ce qu'on appelle les budgetniki, c'est-à-dire qui sont payés par le budget fédéral, c'est-à-dire en gros les fonctionnaires, ceux qui travaillent pour les grandes entreprises d'État, etc., ceux-là, ils risquent d'avoir des problèmes s'ils ne vont pas aller voter. Donc, en quelque sorte, ils sont obligés d'aller voter. Ils font du zèle. Cette élection ne sert à rien, tout le monde le dit en Russie. Elle est totalement inutile. Mais elle est également, elle reste un moyen de légitimer le pouvoir en place, celui de Vladimir Poutine.
Et alors, Anniva, la veuve d'Alexei Navalny, qui appelle demain justement à tous les opposants à venir voter au même moment, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça va être possible? Est-ce que c'est risqué pour ces opposants encore aujourd'hui d'aller voter?
Mais bien sûr que c'est risqué. D'abord, il faut quand même bien souligner le fait que les appels de l'opposition en exil ne sont pas vraiment entendus ici en Russie, puisque la veuve d'Alexei Navalny n'a pas fait la bêtise, entre guillemets, qu'a faite Alexei Navalny, c'est-à-dire celle de rentrer en Russie pour se faire arrêter. Donc, elle reste à l'étranger. Mais quand on reste à l'étranger, on a moins de pouvoir et d'influence sur ceux qui sont en place que quand on est à l'extérieur. Donc, le problème demain, c'est que comment le pouvoir va-t-il faire la différence, imaginons à midi, puisqu'il s'agit d'une opération à midi, entre ceux qui sont des opposants et ceux qui réellement veulent aller voter à midi. Vous voyez, c'est pas visible sur le physique de quelqu'un s'il est opposant ou pas. Donc ça va être très complexe demain, et c'est en cela que ça va être intéressant de voir s'il y a des gens qui suivent cet appel de l'opposition en exil ou pas. Mais de toute façon, aujourd'hui, on en est au deuxième jour de vote.
Oui.
Et demain, ça sera le troisième. Et la fin, ça veut, et il y a déjà un certain nombre de Russes qui ont été votés. Et le pouvoir ici insiste énormément là-dessus, sur le fait que le taux de participation augmente de minute en minute, notamment dans les régions qui votent par un système à distance. Ça, c'est la nouvelle façon qu'ont trouvé les autorités pour, disons, dissimuler ce qui serait une certaine fraude, parce que c'est très compliqué de savoir exactement ce qui se passe quand ça se passe par le vote à distance plutôt que le vote physique.
C'est ce qu'a fait Vladimir Poutine d'ailleurs, on l'a vu d'ailleurs tout
absolument
souriant à la caméra hier, votant de manière électronique. Alors Anniva, je le disais en introduction,
Il a donné l'exemple,
exactement, je le disais en introduction, il y a les commentateurs et les autres, les reporters comme vous, comme Nicolas Toneff qui est avec moi en studio, et c'est vrai que quand
oui,
on lit
sûr
la haine et le déni que vous publiez chez Flammarion, c'est passionnant. Dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup d'humains, c'est ça le sel du métier aussi, Anniva. Là, je boucle un peu la boucle.
Oui, le sel du métier, c'est-à-dire que pour moi, la base, c'est effectivement d'aller parler directement, puisque je parle leur langue, à ceux qui subissent ou qui vivent cette guerre, que ce soit côté russe ou côté ukrainien. Alors ensuite, on a les commentaires, et plus on s'éloigne finalement du terrain, moins on est sûr d'avoir, une fois de plus, une quelconque influence. Donc moi, ce qui m'importe, c'est d'aller à la source, et comme dans les médias occidentaux, on est un peu toujours du côté des gentils, si je puis dire, entre guillemets, je pense qu'il ne faut pas renoncer à aller de l'autre côté, du côté des méchants, entre guillemets, c'est-à-dire ici en Russie, même si ce n'est pas facile. Vous savez, moi, une fois de plus, ça fait 30 ans que je vais en Russie, ça n'a jamais été aussi difficile. C'est-à-dire, non seulement c'est difficile d'avoir un visa, de pénétrer dans ce pays, ensuite de travailler librement et puis de trouver des sources d'informations, parce qu'il faut quand même le dire et le répéter, être journaliste de terrain, c'est avoir une grande humilité, parce que nous ne sommes pas des romanciers, nous sommes dépendants de ceux qui nous parlent, de nos sources. Mais nos sources, il faut qu'elles puissent nous parler. Or, c'est de moins en moins facile de gagner la confiance
vous êtes,
de nos interlocuteurs.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles. Et Nicolas Toneff, qui justement, lui aussi, est allé à de nombreuses reprises sur le terrain.
Peut-être
un petit salut à vous passer, et également
bonjour,
une petite
bonjour
question
Nicolas
rapide.
Bonjour. Oui, Anne, j'avais une question à te poser. Enfin, on peut se tutoyer. Je regardais hier les données présentées par les télévisions russes, qui étaient assez étranges. Je pensais justement à ce que tu disais sur les fraudes. Dans la région de Tchoukotka, déjà hier, la participation était de 50%, donc à peu près 2 mois après la visite de Poutine. En Bouriati également, près de 30%. Et en revanche, dans la République de Tiva et en Rakassi, on était à moins de 1%. Comment est-ce que tu analyses ces distorsions de vote?
Eh bien, la République... il y a d'abord les régions dans lesquelles il y a ce vote à distance. Il y en a 29 régions de Russie sur les 89 fédérations. Les 89 sujets de la fédération. Et dans ces régions où le vote à distance existe, il y a finalement une pression plus grande, comme le taux de participation est visible pratiquement en direct, eh bien, il y a une possibilité de faire pression de la part des gouverneurs de ces régions sur ceux qui sont dans les bureaux de vote pour pouvoir faire en sorte que les gens votent. Donc ça, c'est la grande différence avec le vote où l'on va physiquement se présenter physiquement. Et puis, il y a les régions dans lesquelles beaucoup de soldats ont été envoyés sur le front en Ukraine. Et là, ça sera intéressant de voir si ces régions qui se sacrifient finalement beaucoup plus que les régions urbaines comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg, est-ce que ces régions votent mieux, entre guillemets, en faveur de Vladimir Poutine ou pas?
Et on suivra ce scrutin avec beaucoup d'intérêt avec vous, Anne Niva. Merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Grand reporter, vous couvrez l'élection
juste
présidentielle pour
région,
Le Point.
Voilà.
Juste avant de partir vadrouiller comme vous le faites, et on aura grand plaisir à vous lire dans Le Point la semaine prochaine, ainsi que votre dernier ouvrage, La haine et le déni, c'est chez Flammarion.
Une interview à retrouver partout en podcast quand vous le souhaitez sur Europe 1.fr et sur l'application Europe 1.